Anne Lasserre, c'est pour moi le moment préféré de la semaine, puisque je
Moi
suis en
aussi.
votre compagnie et on parle des Pyrénées et on n'arrête pas de me dire que les gens aiment bien notre chronique, enfin votre chronique, parce que moi je ne suis que un modeste présentateur, hein.
Philippe, je suis très ému par ce que vous dites.
Mais c'est vrai, c'est sincère, parce que c'est un moment, je sais que c'est un moment d'abord moi qui me plaît. Vous êtes une personne que j'apprécie beaucoup et je sais qu'en plus les auditeurs aussi. Donc ben voilà, tout le monde est heureux pendant ce petit bout de temps de la semaine.
Et moi, je suis ravie de participer à Radio Présence, aux émissions de Radio Présence.
Alors Anne, aujourd'hui nous allons aller dans les Pyrénées-Orientales avec Victor Dujardin. Alors pour le situer dans le temps, Victor Dujardin est né en 1830. Il décède en 1897 et en 1888, il part visiter le Midi de la France.
Et dès la première page, Philippe, il note que le 29 août 1888, il gravit dès l'aube la montagne du Fort à Collioure pour aller admirer le soleil, le vent, et on le comprend.
Bien sûr. Victor Dujardin se déplace à pied ou en diligence. Il monte parfois dans des voitures de la poste, ce qui lui donne quelques émotions quand les chevaux s'en vont au galop.
Oui, c'est vrai qu'il en parle. On est en effet encore au temps de la poste aux chevaux et les malle-poste transportent le courrier, mais aussi transportaient des voyageurs.
Alors, Victor Dujardin se présente comme un homme du Nord, hein, découvrant le sud de la France et plus précisément le Roussillon.
Ce qui ne l'empêche pas, Philippe, d'employer des termes occitans, embousciner les boutifards. J'ai quand même cherché dans un dictionnaire occitan, j'ai trouvé que boutifard désigne le boudin. Boutifard
Et
désigne
alors,
le boudin.
et embousciner alors, Anna?
Et embousciner, je n'ai pas trouvé, mais il me semble que le terme parle de lui-même, farcir les boyaux, j'ai pensé que cela voulait dire ça.
Alors, ben, on va faire appel. Hein, on n'est pas dans Qui veut gagner million, on fait pas appel, on peut appeler un ami, mais si. Donc, des auditeurs ont une idée, qu'ils n'hésitent pas donc à nous appeler. En attendant, vous avez choisi de lire un passage de son séjour à Amélie-les-Bains, au cœur du Val-Espire. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En 1890, Victor Dujardin publie le récit de son voyage dans le Roussillon. Il arrive à Collioure à la fin du mois d'août 1888. À pied ou en diligence, il parcourt les Pyrénées-Orientales et bien sûr, il séjourne à Amélie-les-Bains, station thermale alors recherchée en raison de son climat tempéré. Nommée jadis les Bains d'Arles, écrit Victor Dujardin, la ville n'a pris le nom d'Amélie que vers 1840, époque de sa formation en commune et de la fondation de l'hôpital thermal militaire. Le nom d'Amélie a été demandé à la reine de France, femme de Louis-Philippe Ier, par les habitants du pays. Cette autorisation ayant été accordée, la nouvelle agglomération a été séparée d'Arles et érigée en commune sous la désignation d'Amélie-les-Bains. L'établissement militaire, dont l'exposition fort belle domine la ville, occupe une superficie de 6 hectares. Ses plantations, riches et variées, en font un des plus remarquables hôpitaux de notre armée. On vient également de l'expérimenter pour les soldats rentrant du Tonkin. Ils s'y sont parfaitement rétablis. Amélie-les-Bains est la seule station thermale permanente de toute l'Europe. La vallée où elle est assise, entourée de hautes montagnes qui s'opposent au vent du nord-nord-ouest, concentre et conserve toute la chaleur des faibles rayons du pâle soleil d'hiver. Elle constitue en outre une réunion de sites délicieux et des plus pittoresques. Les trois grands établissements thermaux, les thermes Pujade, les thermes Romains et l'hôpital militaire font d'Amélie une ville d'eau des plus importantes de France. Malgré ses nombreux avantages et surtout sa situation exceptionnelle, Amélie ne prospère pas. Ses habitants ne font aucune réclame. Ils ne savent pas attirer l'attention des étrangers et semer pour récolter. De plus, dans ce pays où les arbres sont si rares et seraient pourtant si précieux, on paraît prendre plaisir à les détruire. Il y avait, à la porte d'Amélie, sur la route d'Arles, un charmant petit bois qui commençait à donner de l'ombrage. La ville pouvait l'acquérir facilement, y faire tracer un labyrinthe et des sentiers arrosés de cours d'eau, à l'instar du superbe parc de l'établissement militaire. Ce charmant bosquet aurait constitué la plus jolie et la plus agréable promenade d'Amélie. Eh bien, on a récemment rasé ce bois et substitué le désert brûlant à une oasis de verdure et de fraîcheur. Port-les-Bains, qui domine Amélie, fait un très bel effet dans l'ensemble du paysage. Cette forteresse a été construite en 1670 sur l'ordre du comte de Chamilly et en même temps que celle de Bellegarde par l'ingénieur Saint-Hilaire. Vauban y a apporté quelques modifications, mais il y attachait peu d'importance et l'appelait une simple gentilhommerie. Amélie-les-Bains, de même que Nice, à sa brillante saison d'hiver. Les bals et les fêtes s'y succèdent sans interruption du mois de novembre à la fin de mars. Les thermes romains, les thermes pujades, l'établissement militaire rivalisent de luxe et de splendeur. On joue la comédie dans les villas princières et les enfants ne sont pas oubliés dans toutes ces réunions du monde où l'on s'amuse. Ils ont leurs bals parés et travestis. De plus, un théâtre-concert, le casino municipal, ouvre tous les soirs ses portes au public. Les cavalcades, les batailles de fleurs et d'oranges sont aussi très fréquentes à Amélie-les-Bains pendant les jours gras. Là, défilent dans les rues, sur les promenades, des chars nombreux précédés et suivis des acclamations d'une foule enthousiaste. La fête du 10 mars 1889 a eu un succès exceptionnel. En première ligne, le char de l'agriculture, représentant une ferme avec ses laboureurs, son bétail, ses produits, ses instruments de travail, était traîné par 6 bœufs superbement ornés. Le char de l'industrie et son nombreux personnel, occupés à limer, à frapper, à ajuster, à coudre, venaient ensuite. Puis le char de la jeunesse, attelé de chèvres, était bondé de jolies petites filles coquettement costumées. Après le passage de cavaliers enrubannés et de gracieuses quêteuses, s'avançait le char des fleurs et des oranges. Ces jardiniers d'opéra comique lançaient leurs bouquets et leurs pommes d'or aux spectateurs des balcons et des terrasses. Le char des eaux était recouvert de rochers, de plantes marines, et au milieu, Neptune et Amphitrite, dignes et sévères, trônaient dans toute leur majesté. Le char du commerce ou de la charcuterie a principalement été très applaudi. L'illusion était complète. Rien ne manquait à son organisation. Depuis les dames de comptoir, au sourire toujours aimable, représentées par une belle bouchère et une charmante modiste d'Amélie, jusqu'au marmiton hachant la chair fraîche et emboussinant les appétissantes boutifares. Au XIXe siècle, dans les Pyrénées-Orientales, Amélie-les-Bains attirait les curistes qui assistaient volontiers au carnaval quand ils séjournaient dans la ville à cette époque-là de l'année. Le carnaval, qui a des origines anciennes à Amélie-les-Bains, était un événement exceptionnel et très codifié. Le passage retenu a été écrit par Victor Dujardin. Il est extrait d'un ouvrage intitulé « Voyages aux Pyrénées, souvenirs du Midi, le Roussillon ». L'ouvrage a été publié à Céré en 1890.
Et voilà comment Victor Dujardin présente la station thermale d'Amélie-les-Bains à la fin du 19e siècle. C'est une des rares villes thermales à être fréquentée toute l'année en raison de son climat tempéré.
Et c'est pour cela que, comme à Nice, la saison d'hiver y est brillante et animée. On y donne des bals, des fêtes Et l'on ne manque pas le carnaval, Philippe.
Et le carnaval reste de nos jours un grand moment festif à Milly-les-Bains. 130 ans plus tard, il est préparé avec autant de soin. Les chars sont toujours aussi nombreux.
En ce qui concerne l'auteur, je voudrais quand même préciser, Philippe, que Victor Dujardin est historien. Il fut un des fondateurs de la Société de topographie de France et il a été également rédacteur au ministère de la Guerre.
C'est peut-être pour cela qu'il s'intéresse à la forteresse qui domine à Milly-les-Bains et qui a été construite en 1670 sur l'ordre du comte de Chamilly.
Pour dire deux mots sur ce comte Noël Bouton de Chamilly, il est né en 1636 et il a proposé la fortification du site d'Amélie. C'était un officier et il sera nommé maréchal de France en 1703 par Louis XIV.
Rien que cela.
Et oui.
La semaine prochaine, Anne, vous nous proposez de partir dans les Pyrénées avec Jacques Joffre à travers un récit qui s'intitule « À chacun sa montagne ». À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.